Seigneur mon Dieu, je te prie de bénir cette parole que je vais apporter à mes frères et sœurs. Nous arrivons maintenant à la fin de l'année 2009 et je te prie de m'aider à transmettre ce message afin que chacun et chacune se rende compte du temps qui est en train de passer et que toutes les choses que tu as annoncées sont en train d'arriver, que nous arrivons bientôt à la fin et que tu vas bientôt revenir, que tu vas enlever ton église et que nous devons être prêts. Je te prie, mon Dieu, que chacun écoute sérieusement, avec un cœur vraiment ouvert, afin de bien comprendre ces choses. Père, je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour. Voilà, je vous ai préparé un message. Quand on arrive comme ça maintenant, à la fin de l'année, on fait un peu le bilan de ce qu'on a fait, de ce qu'on a vécu et. Là, vraiment, dans la communauté, nous avons vécu de belles choses, des choses aussi des fois difficiles. Mais grâce à Dieu, nous avons la victoire toujours. Je voudrais vous encourager à vous aussi de vous placer du côté de la vie, du côté de la résurrection, du côté de la victoire. Si vous avez des difficultés, eh bien, de vous en remettre vraiment à Jésus-Christ. Je voudrais qu'on lise un passage dans 2 Corinthiens 4. Versets 5 à 7. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Paul qui parle. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Je voudrais vous parler encore un peu au sujet des bâtons, des verges, des 12 tribus d'Israël, comme je vous en entretenais l'autre jour. Avez-vous remarqué que Dieu a rendu leurs bâtons à chacun des propriétaires, mais qu'il a gardé le bâton d'Aaron, il a gardé le bâton miracle, le bâton qu'il avait fait fleurir, il l'a gardé dans le temple. En lisant ça, j'ai pensé à notre vie communautaire, à nous autres du sanctuary. Vous voyez, Dieu laisse leur propriété aux chrétiens qui vivent dans leur dénomination religieuse, il leur laisse leur propriété. Mais au début, il n'en était pas ainsi. Quand Dieu a créé l'Église, et il l'a voulu communautaire. D'abord, il vivait en communauté avec ses disciples, puis ensuite, il a dit tout ce que je vous enseignais, enseignez-leur aussi, à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et dans Luc 14, 33, il dit, quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Et donc, les disciples ont prêché qu'il fallait renoncer. Voilà pourquoi les gens ont commencé à vendre leurs biens. Les apôtres, par plusieurs autres paroles, les exhortaient, disant « Quittez, sortez de cette génération perverse. » Ils l'ont fait. Résultat, ils ont vendu donc ce qu'ils possédaient. Et ils sont venus vivre en communauté. Vous voyez, aujourd'hui, les choses ont changé. Dieu tolère, n'est-ce pas, toutes ces religions, toutes ces choses, toutes ces organisations humaines, avec des programmes, avec des plans humains. Mais à nous, Dieu nous a pris ce qui était à nous. Et il l'a placé chez lui. En 1977, Dieu m'a dit de sortir du milieu des dénominations religieuses. Ce que j'ai fait avec mon épouse, nous étions juste les deux avec deux, trois autres personnes. Et puis nous avons commencé à regarder dans les Écritures comment vivaient les premiers chrétiens, parce que nous ne voulions pas reproduire ce qui se passait déjà dans les dénominations dont nous sortions. Nous voulions vivre ce que Dieu voulait que nous vivions. Donc nous avons regardé dans les Écritures parce que c'est seulement dans les Écritures qu'on trouve la vérité. Et Dieu nous avait donc dit de sortir parce qu'aucune de ces dénominations ne vivait ce qu'il voulait. Voilà ce que Dieu nous disait au sujet de ces fameuses églises. Alors je ne dis pas que Dieu n'aime pas les églises, je ne dis pas que les églises sont dans l'erreur, je ne dis pas ça. Je dis que nous, Dieu nous a mis à part. Que Dieu a voulu nous en faire sortir et qu'il appelle un certain nombre de personnes un peu partout dans le monde à faire cela. Je dis qu'il nous a mis à part et afin que nous participions à son œuvre, à sa façon et non pas à cette organisation nicolaïte des églises que nous voyons un peu partout dans le monde. Nicolaïte, le mot Nicolaïte vient d'un mot grec qui signifie Nikaos, ça signifie diriger, et Laos, qui est le mot laïque, ça veut dire le peuple. Eh bien, Dieu ne veut pas d'organisation humaine dirigée par des hommes pour commander son peuple. Il veut que ce soit le Saint-Esprit qui dirige tout. Alors voilà, le bâton d'Aaron, qui était sa propriété, sur son bâton, il y avait son nom qui était gravé, n'est-ce pas? Rappelez-vous le texte. Eh bien, il devait rester dans le lieu où, à l'époque, Dieu résidait, c'est-à-dire le tabernacle. Il devait rester là. Et nous savons que de nos jours, Jésus se tient à la porte des églises et qu'il frappe. On trouve cela dans Apocalypse, au chapitre. Je le trouve, Apocalypse chapitre 3. On trouve ça au verset 14. C'est Jésus qui dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, c'est-à-dire à celui qui était envoyé pour être l'autorité spirituelle dans l'église de Laodicée. L'ange, ça veut dire l'envoyé. Hein, Jean n'a pas envoyé une lettre à un ange dans le ciel, mais à un envoyé, à quelqu'un qui avait été envoyé de Dieu pour s'occuper de l'église de Laodicée. Donc écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, donc Dieu connaît les œuvres de cette église. Et cette église, mes frères et sœurs, elle typifie l'église des derniers temps. Il y a sept lettres à sept églises et l'église de Laodicée, c'est l'église de la fin. Je sais que vous êtes chrétien et que, puisque vous écoutez ça, c'est que vous êtes chrétien. Et en tant que chrétien, vous savez que nous sommes arrivés à la fin des temps. Israël est redevenu une nation, ça fait 2500 ans que ça n'avait pas eu lieu. La prophétie maintenant est accomplie pendant notre génération. Nous savons que Jésus revient bientôt. Donc c'est le dernier temps de l'Église, des nations. Et il dit, voilà, maintenant, donc à notre sujet, au sujet de nous, au sujet de l'Église de notre temps, il dit, je connais tes œuvres. Dieu dit, je connais tes œuvres. Il y a beaucoup d'œuvres qui sont faites. Hein. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voilà, maintenant, toutes les églises pensent qu'elles sont dans la vérité, nous avons la vérité, nous sommes dans la vérité, nous avons besoin de rien. Qu'est-ce que c'est ces enseignements nouveaux que tu apportes, Michel? Non, on ne veut pas de ça. Nous, on prêche le plein évangile, ça. Voilà, nous n'avons besoin de rien. Nous sommes riches. Voilà, c'est bien. Mais tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, l'or de la parole de Dieu. Hein. L'or de la parole de Dieu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Hein, si vous vous sentez repris aujourd'hui, ben c'est parce que Dieu vous aime. Alors, ne criez pas, ne rouspétez pas, hein, mais acceptez la réprimande et écoutez la voix de l'Esprit. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Quand quelqu'un est à la porte et qu'il frappe, eh ben, il n'est pas dedans, il est dehors. Et il frappe. Jésus est dehors, il a été mis dehors des églises. Maintenant, c'est plus lui qui dirige, c'est plus le Saint-Esprit, c'est des programmes qui sont faits. Voilà. Alors, il y a des gens qui décident, on va faire ci, on va faire ça, il y a un budget comme ça, voilà. Et puis voilà. Donc, maintenant, il a été mis dehors aussi par toutes sortes de scandales, par toutes sortes de choses épouvantables qui sont faites au cours des siècles, qui déshonorent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, c'est-à-dire si quelqu'un qui est dedans entend que je frappe, hein, et qui entend ma voix, qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il dit pas, je vais rentrer dans l'église, hein, je frappe parce que je cherche à y rentrer. Non, 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 non. Si quelqu'un m'ouvre, j'irai chez lui. Voilà. Donc communion avec la personne qui entend sa voix, chez lui. Jésus ne cherche donc pas à rentrer dans les églises, c'est fini, il ne veut plus. Il cherche à en faire sortir ceux qui entendent sa voix, qui comprennent ce qu'il dit à l'église de notre temps. Hein, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église, n'est-ce pas? Voilà. Celui qui est dedans, dans l'église, il ouvre la porte, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Jésus à l'extérieur, il sort, il va chez lui avec Jésus et il commence à manger avec lui et lui avec Jésus, c'est la communion. Voilà, moi quand je mange avec mes frères et sœurs, je mange avec Jésus, c'est Jésus qui est en eux. Nous avons une communion fraternelle vraie, pas simplement le symbole qui est la Sainte Cène. Hein? Alors, c'était donc le message saint que Dieu nous avait donné donc en 77 maintenant, ça fait maintenant bientôt 33 ans, hein? Bientôt 33 ans que nous vivons cela. Le bâton, qui représente notre propriété, eh bien, nos propriétés, tout ça, ça a été placé dans l'église, dans la communauté, dans la maison de Dieu. Et ça suggère, mes frères et sœurs, que la résurrection, c'est un principe qui est un principe permanent de service sacré. On ne sert pas Dieu seulement dans les services religieux, mais on sert Dieu tout le temps. Nous vivons dans la maison de Dieu, nous sommes dans la maison de Dieu, nous travaillons pour la maison de Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est pour l'œuvre de Dieu. C'est, voilà, nous habitons dedans, nous dormons dedans, nous mangeons dedans. Nous sommes dans la maison de Dieu. Hein, les premiers chrétiens, ils vivaient comme ça. Voilà, lisez ce qui est écrit dans Actes 2 et 4 et vous verrez ce qu'ils vivaient. Ben, c'est ce que nous vivons. Voilà, mes frères et sœurs. Tout service qui n'est pas passé par la mort pour ressusciter ensuite ne peut pas être accepté par Dieu. Il peut être toléré. Il tolère cela. Mais il n'accepte pas cela. Il tolère. Il tolère. Mes frères et sœurs, ayant cette connaissance dans la communauté, nous avons perdu tout espoir quant à nos propres possibilités. Nous ne voulons pas de puissance naturelle au service de Dieu. Nous ne voulons pas servir Dieu avec notre puissance naturelle. Si vous servez Dieu avec votre puissance naturelle, la puissance de résurrection, elle demeure dans l'ombre. Vraiment, mes frères et sœurs. Vraiment, mes frères et sœurs. Vous savez, la puissance de Dieu n'éclate pas tellement dans, c'est pas tellement dans la création. Bien sûr que ça a éclaté dans la création, mais c'est surtout dans la résurrection que la puissance de Dieu a éclaté. Un homme n'est pas capable d'opérer une résurrection et chaque véritable chrétien doit en arriver au point où il reconnaît véritablement qu'il n'est capable de rien qui puisse plaire à Dieu. Nous devons reconnaître que notre capacité est telle que nous ne pouvons dire à Dieu que simplement tout ce qui arrive, c'est ton œuvre. Tout ce qui a été fait, c'est ton œuvre. Je ne peux tromper personne là-dessus. Je suis convaincu que je suis mort véritablement. Et que tout ce qui est vivant en moi, ça vient de toi seul, ô Dieu. Sinon, c'est humain. Et ce qui est humain, ce qui est charnel, ça n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes conscients de ça? Sarah, elle ne pouvait pas prétendre que son fils Isaac était né par sa force à elle. Elle était une vieille femme. Dans l'impossibilité, il fallait le miracle. Alors, c'est bien de faire des miracles. Je sais de quoi je parle quand je parle de faire des miracles. Mais le plus grand miracle, c'est celui de l'amour, de pouvoir aimer son frère, sa sœur, de vivre avec. Dieu nous conduit, chacun de nous, pour nous faire atteindre ce point où nous ne nous trompons plus au sujet de ce qu'il fait. Nous ne sommes que des délégués de son autorité. Et ce n'est qu'en réalisant cela très clairement qu'on peut être son autorité déléguée. Vous savez, j'ai vu des chrétiens qui essayaient d'exercer cette autorité. Oh non, Jésus, oh là là, comme si ça leur appartenait, n'est-ce pas? Eh bien, immédiatement, ils en sont dépossédés de cette autorité. C'est pas la chair. En Afrique, c'est très drôle. Les chrétiens sont très étonnés de ce que je ne prie pas en hurlant, parce que là-bas, si vous ne criez pas, vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Ils sont très étonnés. Et puis alors, quand ils voient les démons qui sortent, même si je parle doucement, oh, ils sont étonnés, n'est-ce pas? L'autorité n'a rien de charnel, c'est pas dans le bruit, c'est pas toutes ces choses-là. Les bâtons morts ne peuvent produire que la mort. Mais là où règne la résurrection, mes frères et sœurs, il y a autorité, parce qu'elle ne repose pas sur le naturel. Le bâton d'autorité d'Aaron, de naturel qu'il était au départ, quand il lui appartenait, il a été pris par Dieu, déposé devant Dieu, et il est devenu surnaturel, il a fleuri, c'est devenu surnaturel. Et à partir de là, Dieu l'a gardé dans sa maison. Notre vie communautaire, ce n'est pas une fabrication humaine. C'est Dieu qui l'a fait fleurir. Et Paul était de cette sorte de disciple, Luc 14, 33, renonçant à son bâton, renonçant à ce qu'il possédait. Et il avait conscience d'être vraiment qu'un vase de terre et que le trésor, eh bien c'est la puissance de résurrection. Ça, c'est dedans, c'est dans le vase de terre. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un vase de terre? Paul, en tout cas, en avait conscience. Il dit qu'il est affligé en tant que vase de terre. Affligé, toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de difficultés, toutes sortes de choses terrible qui lui arrive, maltraité, trahi, tenu pour mort alors que nous sommes vivants, etc. Vous connaissez le passage, hein, c'est juste après ce que nous avons lu dans 2 Corinthiens 4, il dit « Nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. » Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est aussi pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ nous ressuscitera aussi avec Jésus, nous fera paraître avec vous en sa présence. Hein? Alors il dit, sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Portons toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Voyez, grâce au trésor, il n'est pas écrasé. Il a des difficultés, mais grâce au trésor, il n'est pas écrasé. Il trouve la mort d'un côté, mais grâce au trésor, il y a la vie. Dans son corps, dans sa chair, il souffre et tout ça, il y a... La mort se manifeste, la vieillesse, la souffrance, la trahison, la bêtise, toutes ces choses. Mais Paul découvre la puissance du trésor de la vie de résurrection. Il se compare à un objet de miséricorde. Si on regarde le chapitre 4, là toujours, le verset 1, il dit ça très clairement, il se compare. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, il est l'objet de la miséricorde, saint don, et il manifeste la vérité. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage, nous rejetons, etc., etc., pour pouvoir apporter la vérité, publiant la vérité. Nous nous recommandons à toute conscience d'homme. On ne se prêche pas soi-même, il ne se prêche pas lui-même. Mais il dit la vérité selon Dieu, selon le Seigneur qui est en lui. Et il manifeste cette vérité. Cette bonne nouvelle, il dit, cette magnifique chose qu'il manifeste, eh bien, elle est pourtant voilée. Elle est voilée pour ceux qui périssent, pour ceux qui sont incrédules, et que le Dieu de ce siècle a aveuglé. Il a aveuglé leurs pensées. Pour que la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendisse pas pour eux. C'est terrible. C'est terrible. Il parle des incrédules là. Ils sont aveuglés par le prince de ce monde, par le Dieu de ce siècle. Ils sont aveuglés. Pour que la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, virgule, qui est l'image de Dieu, virgule, ne resplendisse pas pour eux. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Qui sont donc ces incrédules? Eh bien, il le dit dans ce même texte, on l'a lu, je l'ai dit deux fois. Ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est l'image de Dieu. Voilà qui sont les incrédules. Voilà qui sont les incrédules. Les incrédules sont ceux qui croient que le Christ est la deuxième personne de la Trinité catholique. Ils ne croient pas que c'est l'image de Dieu. que Jésus avec un corps, c'était Dieu dans un corps, c'était le seul unique Dieu qui existe, une seule personne, un seul Dieu qui s'est manifesté dans la chair à un moment donné. Il ne croit pas ça, il croit dans une trinité, une espèce de fable inventée au 2e ou 3e siècle. Nous croyons, nous comme Paul, parce que la puissance de résurrection nous a révélé que Christ est l'image de Dieu et pas une autre personne. Est-ce que la lumière commence à poindre? Vous voyez la différence entre le bâton qui fleurit et les 11 autres bâtons? Dieu ne rejette pas les autres bâtons. Il ne rejette pas. Mais il les laisse en dehors. Il les laisse en dehors. Ils seront sauvés, c'est vrai, mais ils n'auront pas la récompense de ceux qui sortent des camps, des organisations humaines, religieuses et tout, pour servir, pour vivre dans le temple, là où se trouve Dieu. Ça doit être dit. Si je ne le dis pas, qui va le dire? Qui va le prêcher? Mes frères et sœurs, nous sommes chargés de maintenir l'autorité du Seigneur sur cette terre. Mais nous ne sommes pas l'autorité. Nous n'avons d'autorité que dans la mesure où nous dépendons entièrement du Seigneur. Et mes frères et sœurs, dès que le naturel revient en nous, ne serait-ce que pour dire c'est mon bâton, c'est mon ceci, c'est ma cela, je fais ce que je veux avec, eh bien nous redevenons comme les autres. Notre autorité, ça va plus loin que le simple fait d'avoir un jour été déposé devant Dieu. Beaucoup de gens s'illusionnent parce qu'un jour ils ont levé leurs mains dans une réunion ou parce qu'ils se sont avancés, se sont repentis, puis ils pensent que ça y est, c'est fait. Notre autorité, nous devons avoir l'autorité du nom de Jésus. C'est en mon nom, toute chose doit être faite en son nom, avec son autorité. Est-ce que vous avez ça dans votre vie? Ou est-ce que vous êtes mené par je ne sais quelle autorité religieuse ou esprit bizarre? Dès que le naturel revient, eh bien, l'autorité de Christ n'est plus là. Ça va plus loin. Ça va plus loin que le simple fait d'avoir un jour déposé votre bâton devant Dieu. Il s'agit de plus que cela. Il s'agit du bâton ressuscité qui est destiné à rester dans la présence de Dieu. Tout ce que vous possédez reste dans la présence de Dieu. La puissance de résurrection produit des miracles, mais plusieurs arriveront au jour, à la fin, disant « J'ai fait des miracles dans ton nom, comment ça se fait ?» Eh bien, allez dehors, je ne vous veux pas. Ce qui compte, ce n'est pas tellement les miracles qui sont faits, c'est l'autorité en présence de Dieu. Votre présence en présence de Dieu, avec vos biens, avec tout votre bien en présence de Dieu. Du temps d'Aaron, c'était dans le tabernacle. Il n'y avait pas un autre endroit. Ça ne veut pas dire que Dieu n'était pas partout, mais c'était là que le bâton devait être mis. Et de nos jours, eh bien, c'est dans l'Église gérée par le Saint-Esprit. Et quand je dis dans l'Église gérée par le Saint-Esprit, je veux dire dans l'Église qui est conforme à la parole. Et la parole, c'est acte 2. Et la parole, c'est acte 4. Trouvez-moi une autre parole dans la Bible qui permet de vivre comme les églises vivent aujourd'hui, faisant ce qu'elles font aujourd'hui. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Tout ça, c'est du feu étranger. Pour le moment, Dieu, étant donné que nous sommes dans l'époque de la grâce, il tolère tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il adore ça, ça ne veut pas dire qu'il aime ça, ce n'est pas ça son plan. Ces choses doivent être dites, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, mes frères et sœurs. Il faut le dire, alors je le dis. Tant pis si ça ne me rend pas populaire, tant pis. Moi, ce que je veux, c'est dire ce que Dieu me dit de dire, je le dis. Dieu a dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Point d'interrogation. Il ne lui a pas caché. Eh bien, de même aujourd'hui, Dieu ne cache rien. Mais est-ce que vous avez des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église? Je suis dehors. Je frappe. Y a-t-il quelqu'un qui veut m'ouvrir? Je veux aller chez toi. Je veux vivre avec toi. Je veux vivre l'Église telle qu'elle était au départ, telle qu'elle était pensée au départ par son Créateur, par Jésus-Christ. Je vous ai dit ces choses, que Dieu vous bénisse. J'espère que je vous ai travaillé là et que vous allez réfléchir à ça devant Dieu. J'espère de tout mon cœur. J'attends de vos nouvelles, que Dieu vous garde, non pas dans une fausse paix, mais dans une paix que procure le Saint-Esprit par la parole de Dieu écrite. Amen. Jésus, veuille garder chacun de nos cœurs attentifs à ta volonté, afin que nous puissions faire ta volonté et être ta volonté. Merci Seigneur Jésus de donner à chacun cette possibilité d'entendre ces choses pour que la vérité puisse être manifestée par ceux qui ont les oreilles. Merci Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Vous avez vu, aujourd'hui, j'ai appris le départ pour la maison, pour la patrie céleste de notre frère Oral Roberts. Ça m'a fait de la peine. J'aime beaucoup cet homme. J'aimais beaucoup cet homme. Maintenant, il est parti dans la gloire. Il était un de ceux qui étaient aussi très influencés par le prophète William Branham. Et il a manifesté des choses extraordinaires dans sa vie. Et c'était un ami très très... C'était un ami d'enfance de T.L. Osborne. Hein? Et on peut dire le monde est petit. Hein? Ah, mes frères et sœurs, ça doit nous faire réfléchir. Ça doit nous faire réfléchir. Voilà. Attention, ne vous y trompez pas. Faites la volonté de Dieu. Tant pis ce que les gens pensent. Faites la volonté de Dieu. Amen. Là, je reviens d'Afrique. C'était formidable. Il y avait des miracles extraordinaires. Il y a des choses fantastiques qui sont produites encore. Et là, on vient de mettre encore un témoignage. Vous avez certainement lu ça aussi sur l'Internet. C'est magnifique, c'est magnifique. Mais le plus magnifique, c'est le bâton dans la présence de Dieu. Les miracles, ça c'est très beau, mais que la véritable autorité, le signe d'autorité de ce qui m'appartient dans ma vie, avec mon nom gravé dessus, c'est dans la présence de Dieu, dans sa maison. Pensez-y. Travaillez votre cœur. Laissez le Saint-Esprit travailler votre cœur. Hein? Et que Dieu vous garde. Amen.